Grégory Blanc, bonjour.
Bonjour Annick.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans Science Num. Pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, Science Num, c'est le podcast de Télécom Sud Paris, grande école publique des sciences et technologies du numérique. Science Num, c'est une plongée dans la recherche dans le domaine du numérique où on part à la rencontre des chercheurs de Télécom Sud Paris, on explore leur parcours, leurs travaux, leurs relations avec les entreprises. Grégory Blanc, vous êtes enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. Vous avez d'abord fait une école d'ingénieur en informatique et votre stage de fin d'études au Japon, un pays qui vous a donné le goût de la recherche. Vous êtes alors retourné au pays du soleil levant pour faire une thèse sur la sécurité du navigateur. Puis, vous intégrez Télécom Sud Paris en 2012 comme chercheur postdoctoral et vous devenez maître de conférence en 2015 en charge de la spécialité système et réseau. Vos travaux de recherche portent sur la sécurité des objets connectés. Qu'est-ce qui vous motive dans ce sujet ?
On a vu ces dernières années, et surtout depuis 2017, un certain nombre d'événements inquiétants, des attaques massives lancées à partir d'innombrables objets connectés qui ont été détournés de leur usage. Donc on a beaucoup parlé par exemple du VR Mirai, de ce botnet, c'est un réseau d'objets connectés qui attaquent d'autres ordinateurs dans le monde et qui a, entre autres, comme fait d'armes, fait tomber un service aux États-Unis qui permettait en fait de faire le lien entre les usagers du web et les services des GAFAM tels que Facebook, Google. Et puis plus récemment et plus proche de nous, notre cloud souverain, on va dire entre guillemets, OVH, a aussi été victime d'attaques de ce botnet.
Du coup, on peut parler d'attaque ou de piratage ?
Effectivement, ces objets ils ont été manipulés à distance par des attaquants, dû à leur très grand nombre et leur time to market, comme on dit, assez court. Ces objets sont mis sur le marché à destination des usagers sans vérification de sécurité préalable, laissant donc la porte ouverte à des attaquants qui peuvent facilement s'y connecter, souvent parce qu'il n'y a pas d'authentification, c'est-à-dire qu'on peut s'y connecter sans se loguer dessus, et ensuite les utiliser très simplement via leur interface de programmation pour lancer des attaques.
Et alors, votre contribution pour lutter contre ?
Je vais vous parler d'un projet européen qui s'appelle Variot. En anglais, c'est Vulnerability and Attack Repository for IoT. Donc, c'est une grande base de données dans laquelle on va collecter beaucoup d'informations justement en ce qui concerne les principales vulnérabilités de ces objets. Donc non seulement, comme on a vu, le fait que l'authentification, comme on dit, est faible sur ces objets, mais aussi qu'il y a de nombreuses vulnérabilités logicielles. Il faut voir que sur ces objets, ils embarquent une certaine intelligence, une certaine capacité de calcul, et donc font tourner des programmes. Et ces programmes, ils ont des failles comme un programme sur un ordinateur ou sur un smartphone peut en avoir. Et donc notre projet vise à collecter un maximum d'informations sur ces vulnérabilités, sur comment elles sont exploitées par les attaquants. Et puis, justement, ça permettra de pouvoir s'en prémunir et aussi aux chercheurs et aux entreprises de pouvoir lutter de manière plus active contre les menaces qui pèsent sur les objets connectés.
Vous montez des bases de données de vulnérabilité, c'est bien ça ?
Donc effectivement, nous, on monte une base de données. Certains de nos partenaires, donc des partenaires polonais, des partenaires luxembourgeois et des partenaires néerlandais, s'évertuent à collecter un maximum d'informations. Il existe de nombreuses bases de données de vulnérabilité. Et l'idée, c'est de collecter toutes celles qui sont pertinentes par rapport aux objets connectés, ainsi que ce qu'on appelle des exploits, c'est-à-dire du code qui a été écrit par des attaquants et qui permet de détourner des objets. Au-delà de ça, nous, on a d'autres rôles, créer des modèles en fait, de communication qui sont dits légitimes, c'est-à-dire qu'on regarde comment les objets se comportent. On a pour cela créé une plateforme où on a acheté de nombreux objets du quotidien qu'on y a déployés. On les monitore en permanence pour savoir comment ils se comportent. Et au-delà de ça, des gens peuvent du coup savoir détecter ce qu'on appelle des anomalies, c'est-à-dire des moments où ces objets ne se comportent pas normalement. Et ça peut être indicateur d'une compromission, c'est-à-dire qu'un objet a été attaqué par un criminel.
Vous montez des bases de données de vulnérabilité, ça on l'a bien compris, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour lutter directement contre ces attaques ?
Notre équipe est spécialisée en détection d'intrusion. C'est un domaine de la cybersécurité. On cherche des traces, des comportements qui prouvent qu'un ordinateur, un smartphone, un programme qui tourne sur ces ordinateurs, sur ces smartphones, a été détourné par un attaquant. Alors souvent, on va dire ce qu'on trouve généralement dans le public, ça va être ce qu'on appelle des détecteurs par signature. On connaît à l'avance comment l'attaquant va procéder, comment les logiciels malveillants fonctionne et se comporte, et on essaie de détecter des sortes d'artefacts qui sont représentatifs de ces comportements malveillants.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous démarque des autres recherches menées dans ce domaine ? Quelle est la spécificité de votre travail ?
Nous, on essaie de prendre une autre approche qui est ce qu'on appelle la détection d'anomalies. On va apprendre comment les objets se comportent normalement et ensuite, ça va contribuer à des détecteurs qui vont prendre ces modèles de comportement légitimes et essayer de voir à quel moment un trafic réseau qu'ils observent dévie de ce comportement légitime. Et donc c'est à minima une anomalie et si on analyse plus loin, on peut peut-être caractériser une attaque.
Et la finalité de tout ça, quel type d'entreprise s'intéresse à vos travaux ?
Il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des objets connectés. Ces objets se retrouvent un peu partout, à la maison évidemment, dans des hôpitaux ou même dans des industries qu'on appelle maintenant des industries 4.0, des usines où on a déployé un certain nombre d'objets afin d'aider à améliorer la production, à l'optimiser. Donc ces entreprises-là pourraient être intéressées par justement nous soumettre des objets à partir desquels on va collecter du trafic légitime. Il y a aujourd'hui tout un pan de la recherche qui s'intéresse aussi à standardiser les modèles. Notamment, il y a un modèle récent qui s'appelle le MUD et qui sert justement à caractériser des objets grand public avec une liste de fonctionnalités. Et nous, on aimerait participer à cet effort, lister les fonctionnalités, par exemple, d'objets de l'industrie 4.0, afin que, quand on monitore ces objets, on se rende compte que parfois, leur manière de se comporter ne correspond pas à la liste des fonctionnalités qu'ils ont déclarées.
Et aujourd'hui, c'est quoi votre plus grand défi ?
Comme notre projet, en tout cas notre rôle dans ce projet, se concentre sur la génération de ce trafic d'objets connectés, le plus dur, effectivement, c'est cette génération en soi. Quand on parle de génération de trafic légitime, c'est-à-dire qu'on va déployer ces objets dans une pièce, on va avoir des utilisateurs humains, et déjà pour un certain nombre de problématiques liées à la vie privée, on ne peut pas tout collecter. Et ensuite, quand on est interagi avec eux, il faut bien connaître les objets, c'est-à-dire lire la notice pour savoir quelles sont toutes les fonctionnalités qui existent. Et ce faisant, on n'est pas certain qu'on est capable de déclencher tous les comportements de l'objet. Donc il y a ce problème aussi de complétude de la génération qui peut poser problème. Et puis évidemment, le plus grand des problèmes, c'est évidemment la complétude même du jeu de données, parce qu'on ne peut pas investir dans tous les objets. Donc on aurait sélectionné un certain nombre qui sont, on va dire, dans le top 10, 100 de ce que vous pouvez trouver sur les plateformes d'e-commerce. Et on les a inclus dans notre plateforme pour essayer de travailler sur ces objets-là en priorité.
Grégory Blanc, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans l'Internet des objets ?
Il est formé d'objets qu'on appelle des objets cyberphysiques. Donc on n'est pas que dans l'informatique, on va dire dans l'abstrait pour le grand public, des programmes qui tournent sur des ordinateurs. Là, on a des programmes qui tournent sur des objets du quotidien ou sur des objets qu'on peut retrouver dans des usines et qui vont aussi avoir un impact sur leur environnement. Et ça, c'est très critique. Quand je prenais tout à l'heure l'exemple de l'hôpital connecté, on peut se dire qu'à l'autre bout d'un objet, il peut y avoir un patient. Et dans une usine connectée, vous avez des machines-outils qui vont être plus ou moins contrôlés, opérés à l'aide de ces objets connectés. Donc s'il y a un défaut de mesure de l'environnement, on va donner une fausse commande, une mauvaise commande à une machine-outil et qui peut avoir des répercussions graves si, par exemple, elle venait à blesser un ouvrier.
Donc, c'est l'humain qui vous intéresse. Bon, maintenant, on vous donne un budget de recherche plus important. Qu'est-ce que vous en faites ?
On aspire tous à cela, avoir un peu plus de budget. Comme je le disais tout à l'heure, on a de nombreux objets qu'on aimerait tester, donc on aimerait étendre la plateforme à plus d'objets du quotidien. Et puis aussi des objets qui nous sont beaucoup plus difficiles d'accès de par leur prix, de par leur encombrement, comme des objets qu'on peut retrouver dans des usines 4.0. Ces objets-là, c'est bien gentil de les déployer, mais il faut les maintenir, il faut les configurer. On a besoin en fait de main-d'œuvre, de bras pour nous aider à faire avancer la recherche.
Pour finir, un conseil de lecture à donner aux auditeurs pour aller plus loin sur l'Internet des objets ?
Je pense qu'un premier document que chacun peut consulter et que je recommande aussi aux entreprises qui développent ces objets ou aux entreprises surtout qui les manipulent, qui les intègrent dans leur quotidien, c'est un des guides de l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui a publié en août 2021 des recommandations relatives donc à la sécurité de ces objets.
Merci Grégory Blanc. Si vous aussi vous êtes intéressé par l'Internet des objets, on vous invite à lire cette publication récente de l'ANSSI. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Science Num. On se retrouve sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode avec Hervé Debar, monsieur cybersécurité, et on parlera de vulnérabilité logicielle. À bientôt !